Les élections fédérales en Allemagne et comme attendu, les premières projections n'indiquent pas de vainqueur clair pour le moment. Les conservateurs de la CDU, CSU et les sociodémocrates du SPD sont au coude à coude. Nous appelons Berlin dans ce journal.
Éric Zemmour, on le disait, était invité d'Europe 1 aujourd'hui. Le polémiste n'annonce toujours pas sa candidature à la présidentielle et critique le parti. Les Républicains le réentendront.
Valérie Pécresse en déplacement à Pantin aujourd'hui. La candidate à la présidentielle est allée à la rencontre de riverains en colère après l'arrivée des toxicomanes exfiltrés de Paris au début du week-end. Elle plaide pour une solution sanitaire au problème.
Il y a 2 ans, l'incendie de l'usine Seveso Lubrizol à Rouen. 2 ans après, les victimes craignent toujours pour leur santé et les effets à long terme. Ils manifestaient ce matin devant la préfecture à Rouen. Du côté de la météo, qu'est-ce que ça donne, Valérie Darmon?
Eh bien, dégradé nuageux sur la France ce lundi, ciel lumineux à l'est, plus nuageux mais sec des Ardennes au Pays Basque, pluvieux de la Normandie aux Charentes et beau en Bretagne.
Météo complète à la fin de ce journal.
Mais avant de développer tous ces titres, une voix, celle d'un champion du monde.
J'ai pas de mots là en fait, faut que je récupère, je me suis vraiment fait violence et voilà, je pensais à mon petit dans le final, à la rage que j'ai, je voulais tout lâcher. Et beaucoup de supporters qui étaient pour la Belgique dans le dernier tour demandaient de ralentir, ils avaient pas toujours des mots très sympas, donc je tiens à les remercier parce que ça m'a vraiment donné envie d'appuyer encore plus fort.
Cette voix, c'est celle de Julien Alaphilippe au micro de nos confrères de France Télévisions. Il reste champion du monde de cyclisme sur route. 1 an après son titre à Imola en Italie, il récidive dans les Flandres belges à Louvain où nous attend Axel May. Axel, Julien Alaphilippe conserve donc le prestigieux maillot arc-en-ciel. C'est une première pour un Français.
Oui, Julien a fait du Alaphilippe courir avec panache, attaquer dans le final, se faire reprendre, insister et arriver en solitaire à Louvain, s'offrant le luxe, hein, comme l'an dernier, à Imola, de profiter de sa victoire, de lever les bras, bref, de savourer le tout dans une ambiance typique des Flandres, hein, une ambiance de kermesse, bière, frites et bonne humeur. Écoutez, ces Français qui ont assisté à la victoire de Julien Alaphilippe devant la télévision d'une brasserie installée sur le parcours.
On est du nord de la France et donc là, c'était en Belgique, c'était tout près. Donc on est venu soutenir Julien, on a mis le maillot, on a mis la pancarte et il l'a fait. Il a attaqué à 17 km et personne n'a revu.
Voilà, doublette pour Julien.
Et on repart avec le maillot.
Premier Français à conserver son titre, Julien Alaphilippe entre un peu plus dans l'histoire du cyclisme tricolore. Et au bus de l'équipe tout à l'heure, son coéquipier Benoît Cosnefroy savourait lui aussi l'ambiance.
Déjà on a bien profité au podium, mais c'est sûr que ça fait plaisir de partager ça avec, avec le staff. Et là vivement la première bière qu'on va boire pour fêter ça, le palais est sec.
Alors bien sûr, les Belges auraient préféré voir l'un des leurs s'imposer à domicile. Aucun n'est finalement sur le podium. Et si certains supporters n'ont pas été très fair-play pendant la course avec Julien Alaphilippe, d'autres ont carrément chanté la Marseillaise avec le public français.
Axel May qui nous a fait vivre sur Europe 1 ce nouveau titre de champion du monde pour Julien Alaphilippe. L'actualité sport, c'est aussi du football. Marseille-Lens ce soir en Ligue 1. Nous en reparlons tout à l'heure avec Lionel Rousseau.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Raphaël Delvolvé, comme attendu, les premiers résultats des législatives en Allemagne sont très très serrés entre conservateurs et démocrates.
Oui, la CDU, CSU et le SPD recueilleraient chacun près de 25% des voix. Pas de résultat clair pour le moment, en ligne à Berlin avec nous. Hélène Kohl, Hélène, difficile de dire qui va former le premier gouvernement non dirigé par Angela Merkel.
Exactement, le mot-clé c'est la prudence et la nuance. On n'a aucun chiffre officiel pour l'instant et encore moins de résultats définitifs. Ce sont que des projections sur la base de sondages et la moitié des suffrages, il faut le savoir, ont été envoyés par correspondance et ne seront dépouillés qu'après ceux des bureaux de vote. Donc on a une tendance tout de même, une très légère avance pour le camp de la social-démocratie. Le SPD a 26%, un point devant la CDU-CSU hein, selon la chaîne ZDF, mais égalité parfaite à 25% sur ARD. Les Verts autour de 15%, les libéraux à 12%, l'extrême droite à 10% en recul, tout comme l'extrême gauche à 5%. On ne peut donc donner aucun nom. On ne sait pas qui va succéder à Angela Merkel. Ça va dépendre des possibilités de coalition. A priori, le SPD et les Verts, qui progressent à eux deux de plus de 10 points, ont un mandat clair pour mener ces discussions de coalition, tandis que le camp de la droite, CDU et libéraux cèdent du terrain, 8 points de moins en 4 ans. Mais ce sont des résultats qui ne sont pas satisfaisants, vient de dire le candidat Armin Laschet. Mais tout de même, il pense pouvoir peut-être former une majorité. Son concurrent, Olaf Scholz, n'a pas encore pris la parole ce soir.
Merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin.
Voilà, l'autre enseignement, on l'a entendu, c'est le score des Verts. Il recueillerait 15%.
Et nous allons tout de suite à Stuttgart, dans le Bade-Württemberg, le seul land allemand également dirigé par les écologistes. Mélina Fachin, vous êtes sur place pour Europe 1. Quelle ambiance? Comment ce score de 15% est-il accueilli à Stuttgart?
Alors même si les militants verts ici ont applaudi, ont montré leur joie au moment des premiers résultats, on sent quand même une petite pointe de déception. Oui, 15%, c'est ce que prévoyaient grosso modo les derniers sondages. Oui, c'est deux fois plus qu'en 2017 lors des dernières élections. Mais l'eurodéputée verte du Bade-Württemberg, Anna de Parnay-Grunenberg, espérait bien plus.
Par rapport à ce qu'on a eu il y a 4 ans, bien sûr, en fait, c'est pas si mal. Mais on avait de plus grandes attentes, il est vrai. Et bien sûr, nous espérons, comme le disait un peu notre slogan, tout est dedans, alles ist drin, en allemand. Mais je pense que si nous participons au prochain gouvernement, nous allons pouvoir quand même arriver à faire de grands pas.
Et malgré le score élevé des conservateurs de la CDU, des sociodémocrates du SPD, vous l'avez dit, ils sont au coude à coude. À eux deux, ils pourraient peut-être dépasser les 50%. Les militants verts, comme Oliver, espèrent bien faire une coalition avec les vainqueurs.
Le système politique en Allemagne a changé. Sérieusement, les deux grandes parties ont essayé d'avoir du succès ensemble pendant 8 ans. Ils ont eu leur succès, bien sûr, avec Angela Merkel, mais le temps a changé. Il faut faire plus pour le climat et c'est l'original. Les Verts, c'est l'original pour le climat.
Se passer des Verts serait donc une grosse erreur politique, estiment les militants ici. Ils veulent peser dans le nouveau gouvernement. Même s'ils sont réalistes ce soir, la prochaine chancelière ne sera sans doute pas leur candidate, la verte Annalena Baerbock.
Merci Mélina Fachin. Nous reviendrons bien évidemment sur
en long et en large
sur ces élections législatives.
Difficile succession d'Angela Merkel. En effet, dans les débats d'Europe Soir, mon cher Raphaël.
Et puisque nous parlons de politique européenne et avant de passer à la politique en France, ces deux informations, la Suisse a dit oui au mariage pour tous à l'issue d'une votation d'un référendum organisé aujourd'hui. Un oui massif au mariage homosexuel, plus de 64% des voix. Et puis l'Islande, premier pays d'Europe doté d'un parlement majoritairement composé de femmes. Elles sont 33 sur 63 à l'Althingi après les élections législatives d'hier.
À 19h07, on revient en France avec la politique et donc Éric Zemmour était l'invité du grand rendez-vous européen, c'est News Les Échos.
Et le polémiste n'a toujours pas annoncé sa candidature à la présidentielle, du moins vous allez l'entendre, il s'en est encore un peu plus rapproché. Éric Zemmour s'est aussi fait remarquer en chargeant vertement le parti Les Républicains au micro de Sonia Mabrouk.
Aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est que devenu LR, c'est un parti de notables centristes qui après prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général de Gaulle et même Georges Pompidou. Voilà.
Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie
est-ce
question.
Est-ce que je peux ne pas y aller? Bah, oui, je peux toujours ne pas y aller.
Et décevoir tous ceux à qui
si je n'y allais pas, je décevrais à IS beaucoup de gens. Ça, c'est sûr.
Voilà, pas de candidature annoncée, une charge contre LR. Il a aussi beaucoup été question d'histoire, d'immigration, de la place de l'islam dans la société française, beaucoup d'analyses, mais peu de propositions. C'est ce qu'a retenu Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut de sondage Pollingvox.
Ce matin, ce qui était frappant, c'est l'absence pour l'instant de propositions qui étaient faites. Et ça, c'est la différence entre un candidat qui fait une démarche politique, qui va proposer des solutions aux Français, et un polémiste talentueux qu'il a été, qu'il est resté visiblement, qui soulève toute une série de défis pour le pays, qui montre sa grande culture, mais qui ne résout pas les problèmes des Français. Et ce qui était frappant également ce matin, c'est de voir que même sur son thème de prédilection, à savoir l'immigration, on a du mal à comprendre ses solutions.
Jérôme Sainte-Marie au micro d'Europe 1, il répondait aux questions de Thierry Dagira. L'actualité politique, c'est aussi cet échec cuisant pour Ségolène Royal. L'ancienne candidate à la présidentielle échoue à se faire élire sénatrice des Français de l'étranger. Elle n'avait pas l'investiture du Parti socialiste. Sa liste obtient 11 voix.
Quant à Valérie Pécresse, c'était en visite surprise à Pantin ce matin.
Pantin, à la lisière de Paris et de la Seine-Saint-Denis, là où les toxicomanes, les consommateurs de crack du quartier Riquet ont été déplacés vendredi. La candidate au congrès de la droite a échangé avec les riverains, particulièrement en colère. On rappelle aussi qu'un mur a été érigé entre Pantin et Paris pour limiter au maximum les déplacements des toxicomanes. Alexandre Chauveau, Valérie Pécresse n'a pas laissé passer l'occasion pour critiquer l'exécutif.
Oui, et c'est une manière d'asseoir sa position de candidate à l'élection présidentielle. Son déplacement avait tout l'air d'un déplacement de campagne. Elle est donc allée au contact des habitants qui l'ont interpellée, parfois avec véhémence, sur l'arrivée dans leur quartier des toxicomanes installés précédemment à Stalingrad dans le nord de Paris. Valérie Pécresse leur a répondu. Elle souhaite une réponse sanitaire au problème.
C'est un jeu de bonneteau. On les a déplacés, on a déplacé le problème. En plus, on l'a déplacé ici en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire à un endroit qui concentre déjà énormément de défis sociaux. Donc voilà, les élus de Seine-Saint-Denis l'ont dit. Ils ont dit la Seine-Saint-Denis n'est pas une poubelle.
Valérie Pécresse plaide pour l'ouverture d'un centre de désintoxication et se dit prête à, je cite, « partager le fardeau avec l'État et la ville de Paris », une manière d'engager une bataille politique et d'apparaître comme une candidate de terrain et de solution. Elle a également réagi à la construction du mur entre Pantin et Paris, symbole selon elle de la fracture sociale, des mots qui rappellent le slogan de son mentor en politique, Jacques Chirac. Valérie Pécresse se verrait bien le même destin politique.
Alexandre Chauveau, il y a 2 ans, jour pour jour, décédé Jacques Chirac, le même jour, le même matin. Rappelez-vous, un incendie touchait l'usine de produits chimiques Lubrizol à Rouen.
De manifestants ce matin devant la préfecture de Seine-Maritime, car 2 ans après l'énorme nuage noir qui avait survolé Rouen, les craintes sur les effets à long terme pour la santé ne sont pas levées. Caroline Baudry, les associations des victimes de l'incendie réclament transparence.
Et oui, pour connaître l'impact exact sur l'environnement et la santé des riverains qu'a eu cet incendie, Simon de Carvalho est président de l'association des sinistrés de Lubrizol. Il raconte avoir fui sa maison il y a 2 ans, polluée par les fumées. Depuis, il ne boit plus l'eau du robinet.
On a senti que le goût il avait changé. Voilà, trop de chlore. Et aujourd'hui, voyez-vous, on vient de me remettre une clé USB. Ce sont les analyses de l'eau qu'on boit, nous riverains. Et j'apporte encore une fois aujourd'hui la preuve des pics de pollution en 2019. L'État doit être à nos côtés. On n'a pas apporté la preuve.
Un document qui sera transmis à la justice dans le cadre de l'enquête ouverte. L'usine Lubrizol, déjà poursuivie, a été de nouveau mise en examen le 14 septembre pour déversement de, je cite, « substances nuisibles dans les eaux ». L'avocate de l'association, Julia Massardier, tente désormais d'accéder à l'étude de danger, document qui établit les risques liés à l'implantation d'une telle usine.
La préfecture dispose de ce document et quand je lui ai demandé, ils m'ont fourni un document avec les parties masquées de noir, que des pages manquantes. Le document qui nous a été transmis n'est pas exploitable. Nous en avons besoin pour pouvoir saisir le tribunal administratif et questionner la responsabilité de l'État dans ce cadre-là.
C'est la réglementation, assure le préfet, qui rappelle que près de 6500 prélèvements ont été réalisés depuis l'incendie et rendus publics. Tous se relèvent conformes au seuil réglementaire.
Merci Caroline. Caroline Baudry.
Attention, SOS Médecins suspend ses activités demain et cela pour 24 heures.
La Fédération de médecins libéraux entend protester contre ce qu'elle appelle la fin programmée des visites à domicile, pas suffisamment rémunérées selon elle. Explication du président d'SOS Médecins, Jean-Christophe Masseron.
Alors elle risque de disparaître tout simplement par manque d'attractivité, puisqu'aujourd'hui une visite de journée c'est 35 euros, ça prend 3 quarts d'heure, 1 heure parfois, parfois plus. Pendant le même temps, vous consultez 3 patients au cabinet à 25 euros, ça fait 75 euros. C'est beaucoup plus attractif aujourd'hui que de monter dans une voiture et avec les contraintes qui sont celles de la visite à domicile. On demande un tarif intermédiaire pour toutes les visites urgentes, celles qui sont faites dans des délais brefs. De toute façon, la visite disparaîtra. Si on ne fait rien. Donc nous, on utilise la seule arme que nous avons à disposition, c'est de montrer ce qui se passerait sans qu'on soit là.
Le président des SOS Médecins, Jean-Christophe Masseron, il répondait au micro Europe 1 de Thibaut Hu.
19h13, on retrouve Lionel Rousseau. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Mon cher Lionel, Europe 1 Sport tout à l'heure à 20h, du foot avec Marseille-Lens.
Marseille-Lens, c'est l'affiche que nous vous proposons en intégralité qui va clore cette journée de Ligue 1, cette belle journée qui a été assez prolifique et Marseille qui va essayer de rester collé, scotché au Paris Saint-Germain à la 2e place du classement. On ne comprend pas toujours parfois le projet de jeu de Marseille, mais c'est tellement enthousiasmant, c'est tellement frais, il y a une belle mentalité. On se dit que le spectacle va forcément continuer. On en parlera notamment avec l'un de nos invités, Alain Bogossian, champion du monde 98, mais qui a été formé à Marseille, qui a commencé sa carrière à l'OM. Et son premier match en tant que professionnel avec le maillot de l'OM, c'était Marseille face à Lens. Donc voilà, la boucle est bouclée, on en parlera avec lui ce soir. Autre invité qui sera intéressant, c'est le président de Clermont, le nouveau président de Clermont Foot, le Suisse, l'homme d'affaires, le riche homme d'affaires suisse, Ahmed Schaer, qui évoquera pourquoi il s'est engagé, il a investi à Clermont, lui qui acquiert des clubs un petit peu partout en Europe. On essaiera de comprendre quel est son objectif et son projet avec Clermont qui a été battu tout à l'heure dans le match de la fin de l'après-midi par Monaco 3-1.
Merci mon cher Lionel Rosso. Et puis Lewis Hamilton quand même. Hey, je vais vous parler de F1. Qu'est-ce qu'il a fait Lewis Hamilton?
La centième.
Et ben voilà, il a gagné son centième Grand Prix et il remonte d'ailleurs à la tête du classement des pilotes. Merci et c'est la météo maintenant.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Car demain, Valérie Darmon, le ciel se calme, mais une nouvelle perturbation arrive.
Absolument, elle est arrivée ce dimanche soir et après avoir donné de bonnes pluies sur la Bretagne et la Basse-Normandie la nuit prochaine, du vent aussi, jusqu'à 80 km/h en pointe, un temps couvert et pluvieux s'installe ce lundi matin de la frontière belge jusqu'à la région Pays de la Loire, avant de se décaler progressivement de la Champagne, des Ardennes à la Bourgogne, Auvergne et jusqu'à Midi-Pyrénées. À l'arrière, c'est-à-dire du nord-ouest de la France à la Nouvelle Aquitaine, c'est un temps plus variable qui revient. Enfin, du Languedoc-Roussillon à la vallée du Rhône, à PACA jusqu'aux Alpes, mise à mal par l'épisode cévenol de ce week-end, les éclaircies se font de plus en plus larges. Les températures, les minimales aussi entre 11 et 15 degrés en général, 17 à 21 près de la Méditerranée. Les maximales gravitent entre 17 et 21 près de la Manche, jusqu'au Pays de la Loire, 19 à 25 ailleurs et jusqu'à 28 sur le pourtour méditerranéen.
Merci Valérie Darmon.